Être une meuf dans la société aujourd'hui, ça fait peur et c'est pas agréable, et en fait ça devrait être l'inverse.
On est le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes, et pas la journée de la femme. C'est une journée de mobilisation qui est hyper importante mais aussi très déprimante, par le simple fait qu'elle ait besoin d'exister pour qu'on puisse revendiquer nos droits. C'est pas comme si la moitié de la population mondiale avait besoin d'une journée dans le calendrier alors que l'autre non. Voilà, on a un petit problème, vous croyez pas? Pourtant, on nous le répète à tout va, les choses changent depuis 5 ans. Voilà, il y a eu MeToo et puis maintenant c'est bon, les problèmes sont réglés. Ouais, moi j'en suis pas convaincue. Plus j'échange avec des meufs dans mon podcast et plus je constate surtout un même cheminement et un même ressenti latent. L'égalité est encore bien loin et nos droits les plus basiques sont remis en question un peu partout. Et me dites pas qu'en France ça va. En France aussi on fait de la merde par rapport à notre référentiel. Aller comparer des cultures, des systèmes économiques, politiques et des sociétés différentes n'est pas une excuse pour se donner bonne image. C'est pourquoi cette année j'ai demandé à 8 femmes de partager leur point de vue sur 4 questions. Elles ne se sont pas consultées et pourtant leurs réponses se recoupent. Tout ce que j'observe au quotidien lors de mes enregistrements, j'ai voulu le matérialiser dans cet épisode. Avec Chanel, Marine, Jade, Clémence, Maï, Caroline, Perrine et Sonia. Vous écoutez le Clo-Clo Club, bienvenue. La première question à laquelle j'ai pensé quand j'ai eu l'idée de cet épisode, ça a été de demander comment tu vis le fait d'être une femme au quotidien aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'on se sent plus safe? Est-ce qu'au contraire, c'est devenu plus compliqué d'être une femme?
Je me sens très bien dans le fait d'être une femme au quotidien aujourd'hui.
Clémence, créatrice du podcast Mèche à Mèche.
Je suis très contente d'être une femme, je le dis tout le temps, souvent. J'aurais pas aimé être un homme. Et moi, cette énergie féminine, le fait d'être une femme, je me sens très en phase avec ça aujourd'hui et j'adore.
Je suis beaucoup moins toxique avec moi-même, on va dire.
Mon amie Sonia.
Et je suis plus ma meilleure amie, quoi. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. Si je compare à mon moi adolescente, il y a énormément de choses qui ont évolué dans ma manière de ma relation à moi-même et aussi aux autres. J'ai pu déconstruire beaucoup de schémas qui étaient assez nocifs, notamment je parle pour moi qui suis une femme cis hétérosexuelle par rapport au male gaze. J'ai eu énormément de mal pendant mon adolescence avec cette relation au regard des hommes, etc. Maintenant, je fais les choses que je veux faire, je m'habille pour moi. Par rapport aussi à ma manière d'interagir dans le milieu professionnel, je me considère beaucoup plus sûre de moi et j'ose vraiment prendre la place qui est due à tout un chacun, en fait.
Alors, le fait d'être une femme aujourd'hui...
Perrine, communicante et manageuse de créateurs de contenu for good.
C'est quelque chose que je vis quand même de mieux en mieux, enfin... mieux que toutes ces dernières années. Parce que voilà, j'ai vraiment appris, je me suis vraiment émancipée de cette image que je pouvais avoir plus jeune, de ce que c'est qu'être une femme, etc., dans la société. Et donc, j'ai vraiment réussi à comprendre les mécanismes qui faisaient que parfois j'avais pas confiance dans certaines choses, que parfois j'étais... je me sentais pas écoutée et du coup aujourd'hui j'arrive quasiment à chaque fois à les retourner et à faire en sorte qu'on puisse prendre la place qu'on doit avoir.
Bien évidemment, derrière toute cette assurance et cette fierté à être une femme, il n'en reste pas moins des injonctions, notamment les injonctions sur le physique, sur l'âge, celles en fait esthétiques auxquelles on est les plus exposées en tant que femme.
Je commence à...
Maï, artiste peinte.
Enfin, j'ai toujours vu... mais par exemple, la pression sur les réseaux sociaux, tu vois, on est constamment exposé. Je trouve que j'ai du mal à gérer mon image de moi-même par rapport à l'image du corps où je reçois une pression. Ou tu vois, même par rapport à l'âge, je viens de fêter mes 26 ans. Et 26 ans, tu te dis, ok, t'as passé les 25 ans, ça y est. Tu peux plus sortir avec DiCaprio. Mais la vérité, c'est que ça commence à m'angoisser, en fait. Et cette pression qu'on met aux femmes, elle vient de l'extérieur. Et ça me travaille beaucoup ces derniers temps, j'avoue. Le fait d'être femme, finalement, c'est par rapport à l'image, tu vois.
En ce moment, je le sens surtout par rapport aux injonctions.
Marine, doctorante en sociologie.
Sur le corps, en fait, et le... tout ce qui touche aux apparences, c'est vrai que je constate bien comment ça pèse, quoi. Et aussi, moi, personnellement, là, je suis en train d'organiser mon mariage. Et donc, je suis assez confrontée aux normes de genre, à des, voilà, à des discours très très les filles, les garçons d'un côté.
Sphère publique, sphère privée. Il y a un autre truc qui ne change pas aussi, c'est que femme est synonyme de danger, de peur.
Je trouve qu'il y a toujours énormément de peur, quoi, quand, surtout quand tu es dans l'espace public. Ça n'a pas changé vraiment, surtout le fait d'habiter dans une grande ville. C'est devenu peut-être un petit peu pire. Et donc je fais vraiment très attention à moi dans l'espace public. Je ne m'habille pas forcément comme j'aurais trop envie de m'habiller parce que pour ma sécurité, quoi, et pour les regards insistants qui sont parfois donnés à des femmes, quoi.
Après, je dois dire que j'ai conscience que c'est compliqué d'être une femme, et ça depuis toujours. C'est dangereux d'être une femme. Moi, je suis une femme noire, donc c'est d'autant plus compliqué d'être une femme noire. Mais j'ai l'impression que ça peut me donner aussi beaucoup de force.
Oui, pardon, je voulais pas plomber l'ambiance. Y a aussi des trucs cool, du coup, à être une femme. La preuve avec Jade, créatrice du podcast An Eye on You.
Je suis assez fière de la femme que je suis devenue parce que j'ai accompli beaucoup de choses tout en restant moi-même et surtout tout en militant pour mes droits. Je pense qu'être une femme aujourd'hui, c'est forcément tendre vers le féminisme, tendre vers le combat de nos droits en tant que femmes, de l'égalité femmes-hommes.
Et justement, en parlant de féminisme, il y a un événement qui a vraiment marqué tout le monde il y a 5 ans et qui a fait accélérer le mouvement, c'était MeToo. Mais est-ce que ça a vraiment fait changer les choses?
Avant MeToo, genre des affaires comme, je sais pas, Norman, PPDA, ou même là, dernièrement, l'affaire Julien-Ilona, bah, ces mecs-là, on leur serait clairement jamais tombé dessus, je pense.
Chanel, créatrice du podcast et de l'association Balance ta pépite.
MeToo, ça a apporté un espace de parole, si on peut dire ça comme ça, un espace de parole qui s'est ouvert, en fait, pour les femmes.
Déjà, je trouve qu'aujourd'hui,
Caroline, professeure de yoga,
tout ce mouvement est exceptionnel dans le sens où, en fait, on a juste désacralisé un peu le viol, l'agression, slash toutes les agressions possibles et inimaginables, parce que nous sommes dans une société où il y a un crime parfait, il y a le viol parfait. Il faut rentrer dans les critères pour quand tu portes plainte, il faut rentrer dans les critères. Dans ton inconscient aussi, parfois tu peux être agressé et on te dit tu ne rentres pas dans les critères, donc tu dis peut-être que j'ai fait n'importe quoi, peut-être que c'était ma faute, parce que voilà. Et en fait, on est venu à ce point, on est dans un moment où en fait toutes les femmes ont parlé, plein de femmes ont parlé, où il y avait tout type d'agression, tout type d'agresseurs, et on est venu ouvrir la parole par rapport à ça en disant: tu as été agressée, à une personne qui peut-être se sentait illégitime de penser qu'elle avait été agressée, et lui dire: tu as été agressée, ce n'est pas normal, tu as dû souffrir, qu'est-ce que tu as dû souffrir. Et ça, de dire ça à quelqu'un, mais c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à une victime d'agression.
Alors j'ai l'impression, oui et non, que les choses changent 5 ans après MeToo, parce que aujourd'hui, on se soutient beaucoup plus les unes les autres, il y a énormément de sororité, le combat féministe est très très large, est devenu hyper grand et on n'a plus honte de dire qu'on est féministe aujourd'hui, et ça c'est super, c'est une victoire. Non, dans le sens où les dénonciations de viol sont de plus en plus fréquentes et ça c'est génial, il faut ouvrir notre bouche, il faut qu'on parle, il faut qu'on dénonce ce qui se passe. Mais par contre, la justice ne fait toujours pas correctement son travail. Je trouve qu'on pardonne trop facilement les violeurs, qu'on ne les juge pas à la hauteur de leurs actes, et aussi que l'on défend encore trop les violeurs, que les gens ont encore du mal à croire les femmes qui parlent.
Il y a plus la conscience du fait que ça mérite d'être puni. Alors après, est-ce que ça l'est vraiment? C'est un autre débat.
On a l'impression que le fait que les femmes elles aient pris un petit peu de place dans l'espace public, et ben on va pas en plus leur donner du crédit, quoi. Je sais pas, c'est le sentiment que j'ai, quoi. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on a la possibilité de se sentir légitime de prendre la parole, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais qu'on n'est pas du tout encouragé à la prendre. Et quand tu sors du cercle militant où bah, tu as l'impression que le « je te crois »,« tu as raison », il est hyper développé, et bah, en fait, quand tu sors de là, et bah, je trouve que c'est en fait beaucoup plus rare.
Ne pas être encouragé à prendre la parole est pire. Être décrédibilisé quand on le fait.
Moi, ce qui m'a pas plu après dans le mouvement post MeToo, ça a été un peu, c'est devenu un peu sujet à blague. C'est que, voilà, je l'ai vu un peu autour de moi, c'est que c'est devenu une blague. Et c'est quelque chose qui m'a fait vraiment du mal de voir. Il y a eu dans un premier temps, ce que je comprends, certains hommes qui sont mis un peu en victime en disant « Oui, mais on n'ose plus vous draguer ». Je le comprends, je le conçois. Mais on a encore repris la place par rapport aux femmes. Les femmes avaient enfin dans un sujet le pouvoir de parole. Et là, on a repris la place en disant « Oui, mais nous, on peut plus quoi, on peut plus rien faire. » Ben oui, mais en fait, questionnez-vous. Donc, en disant « Attention, tu vas te faire coller MeToo, machin, ou balance ton porc. » Enfin, ça a été... en fait, ça allait un peu loin. Et c'est devenu presque... ouais, bah, c'est qu'ils sont MeToo. Ça a appuyé encore cette histoire de « Les femmes féministes sont hystériques. »
Je trouve que MeToo a donné la parole, enfin, a donné un espace de parole, mais a aussi attisé la haine. Genre l'exemple classique, ça reste quand même Amber Heard.
Certains appellent ça le backlash, cette espèce de retour de bâton hyper violent de la part d'une partie de la population. Mais finalement, est-ce que cette réaction, c'est pas juste de la peur? De la peur face à des choses qui changent, qui les dépassent, qui les déstabilisent?
J'aime bien me dire que si parfois il y a des gros retours en arrière, et voilà, des prises de parole qu'on trouve vraiment archaïques et qui n'ont pas de sens, c'est de la peur en fait. C'est qu'on avance et que du coup, ils veulent retirer la couverture de leur côté et qu'ils le font très fort et de façon stupide. Pour moi, c'est la preuve qu'ils sentent que quelque chose se passe parce que s'ils ne se sentaient pas en danger, on ne les entendrait pas.
Face à tout ça, à quoi ressemble leur féminisme aujourd'hui? Est-ce qu'elles en ont marre? Est-ce qu'elles sont déprimées? Est-ce qu'elles ont envie de tout brûler? La question est un peu biaisée parce que j'ai ma petite idée là-dessus, mais vous allez voir, c'est pas si évident que ça.
Aujourd'hui, dans ma lutte féministe et dans mon combat féministe, je me sens vraiment plus déterre que jamais.
Bon, ok, s'il y a bien un truc qui change pas, c'est qu'on est toutes déterre.
J'ai compris comment je pouvais faire de ma colère un moteur et voilà, qu'elle était pleinement légitime et qu'elle pouvait vraiment m'aider à avancer. Je suis vraiment animée par un feu en moi, et même si parfois ça me met dans une colère et une tristesse, c'est aussi ce feu-là qui m'anime à avancer et à continuer à me battre au quotidien.
Comment je me sens dans mon féminisme aujourd'hui? Eh bien, tout simplement, je me sens bien parce que j'ai l'impression d'avoir plus de ressources, de dialoguer bien plus facilement, d'être beaucoup plus à l'aise avec ce que j'ai à dire, et surtout de vraiment mener un vrai combat qui est utile dans la société et que je ne suis pas la seule à le mener, donc je suis très bien dans mon féminisme aujourd'hui.
Je suis moins dans la lutte peut-être aussi parce que je suis plus fatiguée et vieille.
On y vient, je vous l'avais dit, c'est pas si simple.
Je sais qu'aujourd'hui, on en a parlé ensemble, mais je n'ai plus cette colère. Parfois, elle peut ressortir, hein, bien entendu, selon ce que je vis, ce que j'apprends, mais je ne me sens plus en colère et aujourd'hui, je ne me sens plus le besoin d'être dans une espèce de justice au quotidien parce que pour moi, il est ancré et je peux avoir des paradoxes.
J'ai beaucoup moins de patience pour expliquer aux hommes et j'estime que, voilà, moi, les hommes qui m'entourent, par exemple, dans mon milieu professionnel, aujourd'hui, ils n'ont plus d'excuses, quoi.
Une fois encore, on en revient au mec. Et je me demande si le fait d'avoir un rapport plus apaisé, peut-être moins dans la confrontation aussi, c'est pas une forme de résilience. Après tout, depuis MeToo, on se met vraiment dans une position de dialogue et d'écoute. Mais est-ce que c'est pas reprendre la charge mentale des mecs, finalement? Et je dis ça alors que moi-même, j'ai un rapport beaucoup plus apaisé aujourd'hui et que je fais un podcast dans lequel j'interview des mecs sur leur rapport à la masculinité. Parce que visiblement, ils ne sont pas capables de le faire eux-mêmes. Voilà, bisous à tous mes invités. Je suis très contente de vous avoir au micro.
MeToo arrivait au moment à peu près de mon éveil au féminisme, c'est d'être un peu avant. Mais c'est assez, ça coïncide. Et j'étais très en colère. Et j'avais très peur. La colère et de la peur, tu vois. Et maintenant, je crois que je suis un peu plus apaisée, je suis un peu plus dans la compréhension, tu vois. C'est plus un féminisme ensemble où, ok, on a essayé, on a accusé, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait tous ensemble, tu vois? Qu'est-ce qu'on construit pour demain?
Je me souviens du gros choc, juste après MeToo, où tous les mecs autour de moi me demandaient, mais que ce soit genre. Mes frères, ou des amis, ou même des plans Tinder, tu vois, qui me demandaient « Ouais, mais comment on fait pour être un mec, du coup ?» Et je trouve que depuis 5 ans, on a commencé à creuser un plus en profondeur et on a commencé à se questionner sur les masculinités. J'ai l'impression qu'on cherche
plus à être dans la compréhension, qui ils étaient, pourquoi, même si en soi les choses ne changent pas, on commence à déconstruire nos rapports entre hommes et femmes, entre... En vrai, je dis ça parce que je suis entre en femmes, mais peut-être aussi entre hommes-hommes.
En ce moment, je lis Belle Hooks. J'ai terminé À propos d'amour et je suis en train de lire justement La volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour. Et je le conseille à toutes et à tous, vraiment. Cadeau de 8 mars, offrez-vous Belle Hooks, La volonté de changer.
Les féministes ne s'intéressent pas qu'à une lutte, elles s'intéressent à toutes. C'est un peu à nous qu'incombe cette charge. Et en même temps, on la prend avec plaisir. Parce qu'encore une fois, si on peut aider des vraies minorités, et oui, les femmes, ce n'est pas une minorité, à être visibles et à porter un peu plus haut leur voix en mettant toutes les nôtres bout à bout, ben autant le faire.
Moi, je m'intéresse de plus en plus à ce qu'on appelle la convergence des luttes, à voir voilà, comment on peut allier féminisme et écologie, tout ce qui est même... Si ça ne me concerne pas directement, je m'intéresse quand même à toutes les questions afroféministes. Toutes les formes d'oppression se ressemblent et toutes les formes d'oppression se retrouvent à un moment. Et en tout cas, cette animation par la colère, je pense qu'elle est la même partout et que plus on sera et plus on se fera entendre. Donc voilà, c'est un truc à... Pas mal de termes, il y a le terme d'inclusivité, convergence, il y a le terme intersectionnel, beaucoup de choses. Je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas, j'espère que c'est cette direction que tout ça prendra.
Là, je suis un peu de... je suis pas mal dans une période où j'essaie de creuser ce qui a trait à l'intersectionnalité, dans le sens où, même si par principe, évidemment, j'ai toujours considéré que j'étais contre le racisme, l'islamophobie, les discriminations économiques, les discriminations par rapport aux personnes handicapées, etc., je pense que je me penchais dessus que très légèrement. Et donc c'est quelque chose que j'essaye de plus creuser, de plus me renseigner, d'avoir un féminisme peut-être plus informé.
Le féminisme, c'est quelque chose de génial qui sert à tout le monde, qui sert aux femmes, qui sert aux hommes, qui sert aux personnes non binaires. Enfin, c'est quelque chose qui est fait pour que tout le monde se sente bien dans sa peau, en fait.
Je trouve qu'aujourd'hui, il y a énormément de supports de médias qui abordent les questions de féminisme, de lutte contre le patriarcat, d'intersectionnalité, et je trouve ça super. Enfin, je trouve que c'est génial pour le coup d'être une femme au XXIe siècle parce qu'on aborde ces sujets, on les visibilise. C'est génial d'avoir ces communautés un petit peu féministes et aussi des communautés queer parce que moi ça m'intéresse personnellement beaucoup pour avoir beaucoup d'amis qui sont queer. C'est génial du coup d'avoir ces sororités, je sais pas comment on dit, du version queer et tout, mais. Queerorité, mais qui aborde voilà, ces sujets et qui visibilise des histoires qui ont besoin d'être mises en lumière et d'être abordées, quoi.
Sororité, le mot a été prononcé. Il y a quelques années, on l'employait vachement moins qu'aujourd'hui. Et je suis contente de le voir ressortir dans les différents témoignages.
Je sais que dans mes cours de yoga, par exemple, juste trouver la sororité, trouver toutes ces femmes qui viennent se confier, qui viennent s'apporter un peu de douceur dans son corps, mais qu'est-ce que c'est féministe, qu'est-ce que c'est beau en fait, juste d'être là et prendre soin de soi. Et je pense que le féminisme il est partout et c'est juste toujours plus se respecter et s'aimer toujours plus en fait.
J'ai toujours été la fille qui avait son groupe de copines. Pour moi, mes copines, c'était plus important que mes copains. J'ai toujours trouvé que, en fait, j'ai toujours trouvé que, rapport à la première question, que les femmes étaient mieux que les hommes. Donc, être une femme, pour moi, c'est génial. Donc, être une fille, pour moi, c'est génial. Je me suis toujours dit que c'était nous le sexe fort, en fait. J'ai toujours trouvé les femmes, voilà, plus intelligentes, plus gracieuses, plus débrouillardes, plus, parce qu'elles affrontaient beaucoup plus de choses aussi. Et pour moi, c'était l'être le plus courageux, en fait.
J'aime aussi beaucoup pouvoir faire de la pédagogie, en tout cas discuter avec d'autres femmes et notamment des générations qui sont un peu plus jeunes que moi, qui ont aussi énormément de choses à nous apprendre et je trouve ça génial. Mais voilà, j'aime bien pouvoir échanger avec d'autres femmes pour avancer sur ce sujet.
Pour clôturer cet épisode, je leur ai posé une question qui ressemble pas mal à celle que j'utilise pour terminer les épisodes de Bon Sang. Quel est leur souhait pour l'avenir, que ce soit des souhaits réalistes ou au contraire des souhaits très fantaisistes?
Ce que j'espère pour la suite, c'est qu'on soit de plus en plus nombreuses dans le combat du féminisme, que les gens acceptent ce combat et surtout le comprennent, que les langues se délient sur les violences sexistes et sexuelles et qu'on arrête de dire que les femmes sont des menteuses. Moi, j'ai juste un message, c'est les femmes qui ont subi du viol, qui ont subi des violences conjugales, qui ont subi toute forme de violences sexistes ou sexuelles, on vous croit, vous n'êtes pas seules et n'ayez pas peur de prendre la parole. Parce que même si sur les commentaires Facebook, Twitter, etc., on peut voir des hommes principalement qui disent « Ah, c'est une menteuse, elle veut faire que ça pour l'argent, etc. » Dans le combat féministe, on sait pourquoi on prend la parole. C'est pour dénoncer, c'est pour faire avancer les choses, donc n'ayez pas peur. Que les gens s'instruisent eux-mêmes et voilà, que ça avance encore et encore, parce que je suis convaincue que ça avancera, surtout avec la nouvelle génération qui arrive, la génération Z, comme on dit. Et je sais que ça avancera, j'ai l'espoir que ça va avancer en tout cas.
Je souhaite aussi que tous nos droits soient ancrés à jamais et que voilà, on n'ait plus à se battre en fait, que plein de pays n'aient plus à faire des manifestations juste pour être libre en fait dans la rue. Et je souhaite qu'il y ait de la sororité dans le monde partout.
Je dirais une vraie prise de conscience sur les violences sexistes et sexuelles, parce que c'est un problème qui est énorme et on a des outils pour pouvoir aider, en tout cas, dans le bon sens, à ce que ça aille mieux et à faire évoluer les choses. Et clairement, ces outils-là, ils sont clairement pas utilisés. Tu vois, par exemple, le planning familial, là, récemment, il a porté plainte contre l'État pour non-application à la loi 2001 sur l'éducation à la sexualité et à la vie affective, parce qu'il y a une loi qui existe et elle est absolument pas appliquée. Parce que, voilà, c'est ce que je disais, on a les clés pour changer les choses, pour sensibiliser, pour déconstruire, tout ça, mais pas du tout, on laisse genre tout ça dans un tiroir et on ferme bien les yeux pour être sûr qu'on évolue pas trop quand même. Et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Donc c'est vrai que pour la suite, j'aimerais bien qu'on utilise tous ces outils qu'on a à notre disposition, qu'on fasse appel aux assos, qu'on travaille main dans la main, je sais pas, avec l'éducation nationale, par exemple, pour cette loi, mais avec l'État en règle générale. Et avec mon asso, par exemple, Balance ta pépite, on intervient chez les 3-6 ans. Et je trouve que c'est un âge un peu charnière parce qu'ils ne sont pas encore matrixés par tous les messages qu'ils peuvent avoir dans la société, etc. Et donc on propose des lectures de contes inclusives avec un petit temps de réflexion à la fin où on discute avec les enfants. Et c'est hyper intéressant. Ils ont souvent des réflexions qui sont assez pertinentes. Et c'est des interventions qui sont, je pense, nécessaires. Mais tu vois, là, c'est des interventions qui durent une demi-heure, trois quarts d'heure, et c'est très bien, mais je pense que c'est pas assez. Je pense qu'il faut un travail qui soit sur la durée, parce que c'est comme ça, je pense, qu'on peut changer les choses.
Ça dépend s'il faut rêver et avoir beaucoup d'espoir. J'espère qu'il va y avoir une incroyable révolution queer féministe sans aucune violence, déjà bon c'est impossible, mais et qu'on va sauver la planète et l'écologie et arrêter le capitalisme et que tout le monde sera super heureux et mangera des carottes bio. J'aimerais déjà qu'on puisse vraiment s'exprimer partout, conserver et étendre le peu de liberté qu'on a vis-à-vis de nos corps et peut-être une plus grande solidarité sur les questions qui touchent des femmes mais pas toutes les femmes, donc les questions que l'on arrive à un peu décloisonner parfois la lutte pour s'aider toutes, voilà, pouvoir toutes s'aider à avancer et avoir un avenir radieux.
Alors moi j'espère par la suite que tous ces combats féministes porteront leurs fruits. Malheureusement, il y a des endroits dans le monde où on se rend compte qu'on est en train de reculer. Et ça me fait très peur. Ça me fait très très peur parce que je me dis qu'aujourd'hui on est à un moment donné de la vie de la société où les gens ont peur. Donc comme les gens ont peur, ils font quoi? Ils se recroquevillent sur eux-mêmes. Ils ont besoin d'aller écouter des préceptes de gens complètement haineux, idiots et sectaires. Et voilà, monter du populisme, monter des idéologies complètement nazies. On a atteint le point Godwin, mais c'est le cas.
T'inquiète Clémence, on est déjà à 24 minutes du podcast. Je pense que tu peux faire le point Godwin.
Et,
Et ça me fait très peur. Donc j'espère par la suite, en fait, qu'on arrivera à comment dire, le monde est en train de se polariser. Et j'espère qu'on ira vers le bon côté, vers le côté de la tolérance, vers le côté de l'équité, du vivre ensemble. Et donc j'espère que les gens seront plus instruits, tout simplement, parce que je pense que ça passe par là. Enfin, Chloé, je voudrais te dire merci de m'avoir posé ces questions. Merci de faire parler ces femmes, ces hommes sur les sujets qui touchent au féminisme, à la féminité, à la masculinité. C'est hyper important parce que c'est ce qui fait en fait le vivre ensemble, c'est ce qui fait le fait que on arrive à communiquer les uns avec les autres. Et c'est hyper important en fait qu'on ait des représentations et de la représentativité et qu'on ait des gens très différents qui nous parlent de choses différentes, des mêmes choses, mais de façon différente. Et en ça, c'est hyper cool.
Le constat est doux amer. Rien ne change et en même temps tout bouge. On est coincé entre la peur, la fierté, la sororité, l'écoute les uns des autres, et en même temps une espèce de mur de violence qu'on se prend dès qu'on dit quelque chose. On a envie de tout péter et en même temps de s'écouter. C'est vraiment l'essence d'une lutte qui prend diverses formes. Et je suis très heureuse d'en faire partie aujourd'hui et de pouvoir apporter ma petite pierre à l'édifice. N'oubliez pas que vous soyez fatigué ou non, il y a plein de façons d'agir. Le moindre petit geste compte. Que ce soit en vous renseignant, en éduquant autour de vous, en discutant avec vos potes, que ce soit en allant dans la rue, que ce soit en vous investissant dans une association, en donnant de votre temps, en donnant de votre argent, en lisant sur le sujet, en écoutant des podcasts comme le Clo-Clo Club, vraiment toutes ces actions-là, elles ont un poids, elles vont permettre de changer les choses. On l'a déjà dit plusieurs fois dans ce podcast, il faut semer plein de petites graines, derrière on aura un joli champ. Évidemment, il y a des graines qui vont pas pousser, et c'est pas grave, au moins on aura fait le geste. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à Sonia, Perrine, Chanel, Clémence, Maï, Jade, Marine et Caroline pour leur témoignage. C'était hyper précieux et je suis très heureuse de m'être prêtée à cet exercice avec elle, qu'elle m'ait fait confiance pour ça. C'était un travail titanesque de montage, donc si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au Clo-Clo Club sur les plateformes d'écoute, à me laisser 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcasts, à venir me dire en commentaire, que ce soit sur ces plateformes ou sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok, @Clo-Clo Club, ce que vous avez pensé de l'épisode. Je suis vraiment très curieuse d'avoir vos retours, comme d'habitude, et partagez l'épisode autour de vous, que le plus grand nombre de personnes puissent entendre la voix de ces 8 femmes qui ont des choses à dire. Moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Bye. PS, on vous croit.